Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte à tirer du média suivant, la presse. Au programme, briser la solitude comme les Anglais. Et la deuxième vie du glamping. Bonne écoute.
Briser la solitude comme les Anglais. Un texte de Nathalie Collard, paru le 7 mai 2023 dans La Presse. De plus en plus de gens se sentent seuls. Plusieurs pays, dont le Canada, considèrent d'ailleurs la solitude comme un enjeu de santé publique. Depuis 2018, le Royaume-Uni a même un ministre responsable de la solitude. Nous sommes allés voir quelles solutions les Britanniques ont trouvées pour combattre cette épidémie. Holly Cook a toujours rêvé de vivre à Londres. Originaire de Stoke-on-Trent, une ville de taille moyenne au nord de Birmingham, la jeune femme s'est installée dans la capitale après ses études universitaires, impatiente de profiter de ses plaisirs. Mais au bout de quelques semaines, elle a vite réalisé qu'il n'était pas évident de se faire des amis dans cette grande ville. « J'en avais marre de tout faire toute seule », m'explique-t-elle en entrevue. Après quelques tentatives infructueuses sur des applications de rencontres qui offraient l'option « amitié », elle a décidé de lancer son propre groupe. J'ai commencé par un message Facebook, une invitation à se réunir dans un restaurant pour aller manger des crêpes, raconte cette digne représentante de la génération Z, aujourd'hui âgée de 26 ans. J'ai demandé à une amie qui habitait à 30 minutes de Londres de m'accompagner au cas où je serais la seule à me pointer. Finalement, nous étions 4-5. J'ai répété l'expérience. Chaque mois, nous étions toujours 5 ou 6 filles. À la première année, le London Lonely Girls Club comptait 500 membres. Puis la pandémie est arrivée et c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur l'accélérateur. Au début de l'année 2022, nous étions 10 000 et à la fin, plus de 20 000. Aujourd'hui, le club compte 31 000 filles. Il faut organiser 5 ou 6 activités par mois pour répondre à la demande, ajoute Holly, qui reçoit des invitations pour lancer des sections régionales de son club un peu partout en Angleterre. Sans compter les jeunes hommes qui lui réclament un Lonely Boys Club. De plus en plus seuls. Londres est loin d'être la seule ville où les gens se sentent seuls. Partout sur la planète, la tendance à vivre en solo progresse, surtout dans les grands centres. Selon l'étude sociale canadienne réalisée par Statistique Canada, la proportion des gens vivant seuls avait doublé en 20 ans au pays, passant de 5 à 10% entre 1981 et 2021. Et c'est au Québec que c'est le plus flagrant. Presque une personne sur 5, 19%, vivait seule en 2021. De ce nombre, une personne sur 10 disait se sentir toujours ou souvent seule durant la pandémie. À ceux qui croient que la solitude est une expérience réservée aux personnes âgées, détrompez-vous! Les jeunes aussi la ressentent. La faute aux écrans? De plus en plus de jeunes disent avoir de la difficulté à nouer des amitiés. Selon une étude menée en 2015 auprès de 50 000 jeunes de partout dans le monde, pour le compte de la BBC, 40 % des 16 à 24 ans disaient se sentir souvent ou très souvent seuls, contre 27 % pour les 75 ans et plus. Un sentiment qui a été exacerbé par les nombreux confinements durant la COVID-19. Selon Statistique Canada, 25 % proportion des jeunes Canadiens de 15 à 24 ans qui affirmaient se sentir toujours ou souvent seuls en 2021. 15 % proportion des gens âgés de 25 à 34 ans qui disaient se sentir toujours ou souvent seuls en 2021. Le projet d'une vie. Le nom de Joe Cox vous dit quelque chose? La mort de cet élu britannique, abattu en juin 2016 par un suprémaciste blanc, alors qu'elle se rendait à une activité politique dans la ville de Bristol, a fait le tour du monde. Au Royaume-Uni, cette députée travailliste était connue pour son engagement et son approche inclusive de la politique, une sorte de version british de Véronique Yvon. Durant son porte-à-porte, Joe Cox avait constaté que les gens ressentaient un grand besoin de parler, qu'elle avait souvent avec eux leur première et seule conversation de la journée. Joe a réalisé que la solitude était un vrai problème dans notre pays, m'explique sa sœur, Kim Leadbeater. Elle a décidé de mettre sur pied une commission multipartite pour étudier la question. La solitude est stigmatisée. Les gens étaient gênés d'en parler. La commission a lancé une vraie discussion nationale. Malheureusement, Joe n'a pas survécu pour en voir les résultats. Le rapport de la commission, déposé à la fin de 2017, a mis la solitude sur la carte en Angleterre. Il recommande un véritable leadership du gouvernement, des indicateurs pour mieux comprendre le phénomène, un fonds destiné à la recherche et des objectifs clairs pour chaque ministère. Vous écoutez « Briser la solitude, comme les Anglais », un texte de Nathalie Collard, paru le 7 mai 2023 dans la presse. Aujourd'hui, Kim Leadbeater co-préside le groupe parlementaire multipartite sur la solitude avec Tracy Crouch, la première titulaire du ministère de la solitude nommée par le gouvernement de Theresa May. Sa mission? Veiller à ce que les recommandations de la commission soient mises en œuvre. Cette ancienne professeure d'éducation physique qui s'est fait élire dans la circonscription autrefois représentée par sa sœur, s'est donnée pour mission de poursuivre le travail de son aîné, disparu trop tôt, et de lutter contre la montée de la violence dans la société britannique. Car pour elle, il n'y a aucun doute qu'il y a un lien entre les deux. Ces gens, comme l'homme qui a assassiné ma sœur, ont tendance à s'isoler, observe la députée, qui me reçoit dans son bureau à un jet-pierre de Westminster où siège le Parlement. Si on ne travaille pas pour construire des communautés dans lesquelles les liens entre les gens sont solides, ça peut nous mener à plein de problèmes, des comportements négatifs ou antisociaux, des crimes et, dans le pire des scénarios, à l'extrémisme, affirme la députée Kim Leadbeater. Si quelqu'un n'a aucun sens d'appartenance et d'identité qui le rattache à sa communauté, ajoute la députée avec conviction, les groupes extrémistes vont lui en fournir un, croyez-moi. Le prix de la solitude. Nous ne sommes pas égaux face à la solitude, me rappelle Olivia Field, chef des politiques à la Croix-Rouge britannique. L'organisme est très impliqué dans la lutte contre l'isolement et intervient sur le terrain auprès des populations les plus vulnérables. La solitude frappe deux fois plus fort dans les quartiers défavorisés, poursuit Mme Field, et elle a des impacts profonds sur les individus. C'est prouvé que les gens qui n'ont pas de réseau social sont moins résilients lorsque survient un coup dur. La solitude n'a pas seulement un impact sur notre morale et notre santé mentale, elle a aussi des effets mesurables sur notre santé physique. Une étude financée par le National Institute of Aging aux États-Unis, souvent citée dans les médias, affirme ainsi que la solitude chronique équivaut à fumer 15 cigarettes par jour. Notre santé cardiovasculaire, notre système immunitaire, nos risques de développer l'Alzheimer et même notre espérance de vie sont influencés par la solitude. Depuis l'adoption d'une stratégie nationale pour contrer la solitude, chaque ministère doit l'inclure dans son analyse, précise Olivia Field. La solitude doit faire partie des réflexions lorsque vient le temps d'adopter des politiques publiques. En habitation, ça veut dire construire des immeubles qui favorisent les rassemblements et la communauté. En transport, c'est de considérer non seulement les déplacements vers le travail et l'école quand on planifie, mais également les activités sociales. La solitude devient une grille d'analyse en soi. 49%, proportion des personnes disant se sentir toujours ou souvent seules, qui ont indiqué que leur santé mentale était passable ou mauvaise. Source, Statistique Canada. 15 cigarettes par jour. L'impact de la solitude sur la santé des gens, selon une étude commandée par le National Institute of Aging. L'ami qui vous veut du bien. Grace Thomas travaille chez One Westminster, une organisation qui chapeaute 200 organismes communautaires ou caritatifs dans l'arrondissement central de Londres. Après des études en psychologie et en sociologie, la jeune femme a découvert la prescription sociale, une approche élaborée au Royaume-Uni dans les années 1990 qui consiste à accompagner les individus plus vulnérables dans leur quête de bien-être. Au lieu de vous prescrire un médicament, on vous prescrit une activité, un service, un accompagnement. La personne nous est envoyée par un professionnel de la santé, habituellement son médecin de famille, m'explique la jeune femme. Nous la rencontrons pour établir ce qu'on peut faire pour l'aider à aller mieux, à être plus heureuse. Un prescripteur social vous aidera à trouver les bonnes ressources, mais il peut aussi vous accompagner à un premier cours d'art ou à une activité sportive, question de vous mettre à l'aise. Comme un ange gardien, il marche à vos côtés le temps que vous voliez de vos propres ailes. Parfois, notre travail ressemble à celui de l'ergothérapeute, m'explique Grace Thomas, qui gère une équipe de 5 prescripteurs sociaux œuvrant auprès d'une clientèle de jeunes adultes. L'ergot se concentre sur des tâches du quotidien, alors que notre intervention est plus large. On aide la personne à trouver ce qui va améliorer sa qualité de vie, nous dit Grace Thomas de l'organisation One Westminster. Le National Health Service, NHS, l'équivalent de notre ministère de la Santé, forme et rémunère ses prescripteurs sociaux qui travaillent dans les cliniques médicales et les organismes communautaires. Pas besoin de qualification particulière, il suffit d'avoir envie d'aider. Il n'y a pas encore d'études concluantes qui montrent les effets positifs de la prescription sociale, mais le NHS va de l'avant. L'été dernier, il annonçait l'ajout de 1000 prescripteurs sociaux supplémentaires aux 1600 existants. On comprend que la pénurie de personnel médical n'est pas étrangère à cet engouement, mais ce n'est pas la seule raison qui explique la popularité de cette approche. De son côté, une petite équipe de chercheurs de l'University College London, une des universités les mieux classées dans le monde, se penche sur la prescription sociale destinée aux jeunes adultes aux prises avec des problèmes de santé mentale. L'approche avec les jeunes est différente, m'explique Daniel Hayes, un des 8 chercheurs qui participent à l'étude. À partir d'un échantillon de 600 jeunes, nous voulons savoir quelles approches sont les plus efficaces pour cette clientèle afin d'améliorer l'accessibilité à ce service. L'importance du réseau. Les initiatives britanniques pour combattre la solitude sont reconnues dans le monde. Le Japon a emboîté le pas à l'Angleterre et nommé, lui aussi, son ministre de la solitude. Je ne pense pas qu'on puisse l'éradiquer complètement. Il y en aura toujours, observe Robin Hewings, directeur des programmes à la Campaign to End Loneliness, un groupe de réflexion entièrement consacré à la solitude. Mais si on n'avait pas mis tous ces programmes en place, il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il y aurait encore plus de gens seuls qu'il y en a aujourd'hui. Le mot de la fin revient sans contredit à la docteure Helen Kingston, une médecin de famille rencontrée dans le Somerset, qui me lance ceci. Demandez-vous combien vous avez de vrais amis qui viendraient vous porter de la soupe ou vous visiteraient la nuit si vous étiez mal en point. Vous savez, on nous apprend très tôt à nous soucier de notre capital financier, mais peut-être faudrait-il aussi s'occuper de notre capital social. C'était « Briser la solitude comme les Anglais ». Un texte de Nathalie Collard, paru le 7 mai 2023 dans La Presse. La deuxième vie du glamping. Un texte d'Ariane Kroll et Martin Chamberlain, paru le 8 mai 2023 dans La Presse. Les campeurs qui séjournent au camping des Voltigeurs, à Drummondville, transporteront bientôt leurs bûches dans un sac aux couleurs étrangement familières. Et pour cause, ils seront fabriqués avec la toile beige des tentes Utopia en fin de parcours, résultat d'une entente d'économie circulaire entre la CEPAC et l'entreprise d'insertion estrienne Récupex. Logée en pleine zone industrielle à Sherbrooke, l'entrepôt de Récupex est un véritable carrefour des textiles en quête d'une nouvelle vie. L'organisme à but non lucratif, qui gère une centaine de cloches de dons en Estrie, est le plus gros récupérateur de vêtements de la région. Il reçoit environ 4 millions de livres de vêtements par an. Au triage, les plus belles pièces sont conservées pour la coquette friperie TAFI et compagnie, située rue Wellington Nord, au centre-ville. Le reste est transféré à l'organisme d'économie sociale Renaissance, sauf les manteaux de cuir et de fourrure. Ceux-là sont mis de côté pour servir de matière première aux sacs, mitaines, étuis et autres coussins fabriqués au deuxième étage, dans l'atelier de couture. Ces créations soignées confectionnée par des participants au programme Expérience en entreprise d'insertion de Service Québec, sont également vendues chez TAFI. Revendre ces manteaux de cuir et de fourrure tels quels dans la friperie rapporterait sans doute plus d'argent, reconnaît le directeur général Danny Roy. Mais on est une entreprise d'insertion. Notre objectif est de permettre à des gens de vivre une expérience de travail pour s'intégrer au marché de l'emploi, explique-t-il. Les participantes, en majorité des femmes, suivent une formation pratique de 6 mois à raison de 35 heures par semaine rémunérées par Service Québec. Plusieurs participantes étant immigrantes ou réfugiées, des cours de francisation sont aussi offerts sur place. On travaille beaucoup sur le savoir-faire, mais aussi sur le savoir-être, la culture du marché de l'emploi, les bonnes habitudes et la communication au travail, dit Danny Roy, directeur général de Récupex. Cette mission et l'importante capacité d'entreposage de Récupex a convaincu le responsable du développement durable de la Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC. Dans les 5 prochaines années, on aura environ 500 tentes Utopia à renouveler, souligne Hugues Sans Regret. Ces tentes, utilisées pour le prêt à camper, une tendance parfois appelée « glamping », doivent être remplacées lorsqu'elles sont trouées ou abîmées, environ tous les 5 ans. Le parc national du Bic a été le premier à soulever le problème. Que faire pour ne pas jeter toute cette toile? On a fait une consultation interne des employés, raconte M. Sans Regret. La CEPAC, ayant plusieurs modèles de barbecue, l'idée d'une housse pour ces appareils a dû être écartée. Mais quand le porte-bûche est sorti à la réunion des responsables de maintenance, tout le monde a dit oui. Ces sacs de transport, ouverts sur les côtés, sont constitués d'un simple panneau de textile muni de ganses. La CEPAC en achète jusqu'à 2000 par an au plus bas soumissionnaire retenu par Québec. Mais pour ce nouveau projet, c'est plutôt un service de couture dont elle avait besoin. Ses recherches l'ont amenée chez Récupex. Après quelques mois à tester des prototypes et des processus de fabrication, l'entreprise a installé un tout nouveau poste de travail au cœur de son entrepôt avec une table de coupe pour les toiles, une station pour les ganses et 2 machines à coudre. Ça nous permet de diversifier notre offre de formation en couture, être capable de faire de la répétition et d'aller chercher une certaine rapidité de production, c'est vraiment un plus pour nos participants. Et avec une première entente de 3 ans, c'est un projet qui donne une perspective à moyen terme, dit Danny Roy, directeur général de Récupex. Chaque porte-bûche doit pouvoir soutenir le poids de 0,7 pieds cubes de bûche. La toile mate, moins robuste, doit être doublée, ce qui permet de fabriquer 60 porte-bûches par tente contre 120 avec les tentes au fini lustré. Environ 70 % des toiles est ainsi récupérée. Et c'est sans compter les attaches de métal et la toile des séparateurs intérieurs des tentes, jamais exposée aux intempéries, qui pourraient servir à fabriquer d'autres articles comme ces sacs. Ce porte-bûche coûte 7 $ à la CEPAC, soit environ 2,50 $ de plus que le modèle actuellement acheté au fournisseur ayant soumissionné au plus bas prix. Un des porte-bûches actuellement utilisés dans les CEPAC qui seront progressivement remplacés par ceux fabriqués à partir de toiles de tente récupérées. Il nous coûte plus cher, mais c'est du bonbon à nos yeux, parce qu'on réinjecte l'argent dans l'économie circulaire. On crée des occasions d'emploi et l'argent reste chez nous. Le bénéfice est beaucoup plus grand. Fait valoir, monsieur, sans regret. Et sans ce projet, la CEPAC aurait dû payer pour se débarrasser de ses 500 tentes. C'est l'équivalent de 6 hectares de toile. Il y a un coût environnemental et un coût de gestion à cela. Ça n'a donc pas été très difficile à vendre chez nous. Les 800 premiers porte-bûches qui sortiront de chez Récupex d'ici la fin mai iront au camping des voltigeurs. Les prochains seront répartis entre les parcs nationaux de Frontenac et de Mont-Mégantic durant l'été. Les autres seront ensuite distribués progressivement dans le reste du réseau de la CEPAC. C'était la deuxième vie du glamping. Un texte d'Ariane Kroll et Martin Chamberlain paru le 8 mai 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.musevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Drion à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.